L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2. Avec lui, nous allons analyser, au-delà du bruit médiatique et diplomatique qui a entouré ce qui s'est passé il y a 3 semaines au Niger, les raisons profondes qui ont conduit au contexte dans lequel la garde républicaine a pris la décision de déposer le président élu Mohamed Bazoum. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et confronté à une crise économique et politique aggravée depuis le 26 juillet en raison des sanctions régionales imposées par la CEDEAO, qui est la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, suite au renversement du président Mohamed Bazoum par la garde républicaine commandée par le général de brigade Abdourahmane Tiani. Ces sanctions vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique. Outre les conflits ethniques qui traversent ce pays à l'image de tous les pays du Sahel, en 2022, le Niger a été classé au 189e rang sur 191 pays dans l'indice de développement humain des Nations Unies, et ce après plus de 60 ans d'indépendance, bien qu'il soit le 7e pays le plus grand fournisseur d'uranium au monde. En effet, sur une population de 10 millions de personnes, pas moins de 41% de la population totale du Niger vit en dessous du seuil de pauvreté et 40% du budget de l'État vient de l'aide étrangère. Par ailleurs, selon les données de l'ONU, le Niger accueille 255 000 réfugiés qui ont fui le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria en raison de l'insécurité et des conflits armés dans ces pays. Le général Abdourahmane Tiani a déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre la crise sur fond d'une menace d'intervention militaire de la CEDEAO réaffirmée à Abuja le 10 août. Alors, pour discuter des probables évolutions de cette situation sur les plans national, régional et international, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, c'est moi qui suis honoré et bonjour à nos amis aussi.
Alors, au fond des choses, parce que on se veut quand même de ne pas analyser juste les faits apparus ces dernières semaines, mais aller vraiment dans la profondeur des choses pour essayer de dénicher les causes profondes de ce qui se passe actuellement, pas uniquement en Niger, mais dans tous les pays du Sahel. Alors, au-delà des analyses à chaud, avancées ça et là, notamment dans les médias occidentaux, pour expliquer les origines de la déchéance par l'armée nigérienne du président Mohamed Bazoum, quelles sont les causes profondes de cette action au Niger et dans tous les pays du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest ayant connu la même situation, à votre avis?
Moi, je crois que pour faire une excellente analyse, il faut faire parler donc le terrain. Et pour ce faire, il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. Moi, je crois qu'il y a un ensemble d'éléments ou de facteurs exogènes et endogènes qui ont poussé justement à la situation actuelle. D'abord, je pourrais dire les facteurs exogènes, c'est la réussite de l'entreprise au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, donc de se défaire de ce poids des accords coloniaux, surtout. Et non pas le renversement du pouvoir. Là, il s'agit d'une autre lecture parce qu'il faut voir la chose selon la spécificité locale et non pas selon les yeux occidentaux. Et là, c'est parce que de tout temps, l'histoire nous a été dictée par l'Occident Et quelque part, c'est comme si on parlait à un enfant ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Aussi, la réussite au Rwanda et en Centrafrique de s'éloigner justement de la force coloniale, mais surtout ce bond économique et cette santé sécuritaire qui ne font que consolider l'action à venir, donc celui de M. Tchali et son équipe. Alors, les facteurs endogènes, on pourra en tirer, en parler. Donc, j'oublie donc aussi, dans les facteurs exogènes, la solidarité de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso à ne faire que corps commun contre toute éventualité d'intervention extérieure. Ça, c'est important. Un dernier facteur qui est l'opposition totale des pays voisins, donc du terrain, notamment le Tchad, la Libye et surtout l'Algérie qui pèse de tout son poids et qui n'accepte pas et n'accepterait jamais qu'il y ait une intervention militaire ou que, quoi que ce soit au Niger et qui prend justement la voie de la sagesse et la voie du dialogue. Sachant que l'Algérie est forte d'une armée de plus de 600 000 soldats et plus de 500 000 réservistes, quelque chose de plus de 1 100 000. Et vous savez, aussi bien que moi, que la force de frappe de l'Algérie, donc militaire, est telle qu'elle est dissuasive. Et cependant, elle n'usera jamais des moyens musclés pour régler un problème auquel elle croit que la solution est pacifique. On sait quand est-ce que ça commence une guerre, on ne sait jamais quand est-ce qu'il finit. Les facteurs endogènes,
absolument. C'est comme le feu. Exactement. C'est comme le feu. On sait où il commence, mais on ne sait jamais où il se termine.
Donc, le fait que le président déchu Bazoum ait accepté de recevoir les bases de Barkhane sur le territoire nigérien et qui a soulevé l'ire et la colère de toute la population, je crois que ça a commencé à créer une discorde prononcée entre l'armée et le président. Ensuite, le fait de démettre le ministre de la Défense de ses fonctions, il y a un mois de cela, et selon donc des dires proches du centre de pouvoir et de prise de décision, il s'agirait de la volonté du président déchu, Mohamed Bazoum, de remettre en liberté des terroristes et surtout des éléments de la DGSE, donc des services secrets français. Et cela a été contre l'avis de la garde républicaine, ce qui a poussé, donc, en dernier lieu, à pousser la mise en garde donc, et la défection du président. Ensuite, il y a deux facteurs importants, car la garde républicaine n'était pas assez puissante dans son entreprise, car elle était pratiquement seule. Seulement, l'accord ou le rapprochement de l'armée, donc de cette initiative, et surtout, donc un facteur important, c'est ce soulèvement populaire pour défendre le comité ou le conseil de transition, à défendre à même le corps, car les populations étaient prêtes à se présenter en tant que bouclier humain pour défendre les sites stratégiques et le palais présidentiel. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce coup d'État est consommé, est totalement consommé, et on ne peut pas faire machine arrière.
Quand vous dites, Monsieur Soufi, que le renversement de Mohamed Bazoum ou sa déchéance est consommé, ce qui veut dire que vous excluez totalement l'éventualité qu'il puisse revenir au pouvoir. C'est terminé pour lui.
Absolument. Bon, il faut que nous allons se mettre d'accord sur le jargon que nous utilisons. Ça, c'est important. Quand nous parlons de coup d'État ou de putsch, nous parlons de coup d'État, non pas contre la souveraineté nationale, non pas contre le président, mais surtout contre les accords coloniaux. Parce que c'est ce qui s'est passé en réalité au Mali, au Tchad, au Burkina Faso et ailleurs. C'est que à un moment, les populations et l'élite a dit basta à cette mainmise française sur ces régions et qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Alors, pourquoi il est consommé? Parce que, réellement, on n'accepterait jamais qu'il y ait un retour de Bazou, car il va se venger sur l'ensemble de l'élite qui a participé à sa défection. Et par conséquent, ce serait très facile de dire que il va revenir ou il pourrait revenir. Que faut parler terre à terre. Hein. Ensuite, l'idéal, donc avec la pression et cette gestion de crise, le conseil de transition va chercher, donc dans les négociations, deux points focaux ou importants dans ces négociations, que ce soit avec la CEDEAO ou avec l'Union africaine, ou même avec d'autres acteurs, pour voir d'abord comment revenir le plus rapidement possible à l'ordre constitutionnel, ça veut dire entreprendre de faire des élections présidentielles anticipées, mais aussi comment, parce que le Niger est un acteur international aussi, et là les négociations vont dans le sens à protéger les intérêts des uns et des autres, donc les prix acquis et les prix requis entre le Niger et d'autres acteurs. Ce qui est sûr que cette colère que nous voyons, notamment en Afrique de l'Ouest, est une colère contre la politique française dans la région. Et par conséquent, nous n'avons jamais vu ni les Maliens, ni les Tchadiens, ni les Burkinabés, ni encore au moins les Nigériens parler des Britanniques, des Américains, des Suédois ou encore moins des Allemands aussi, comme étant les principaux acteurs qui ont plongé l'Afrique dans la pauvreté. Le Niger, comme vous le disiez tout à l'heure, le peuple nigérien, c'est le peuple presque le plus fort dans le monde et c'est le pays le plus riche. Donc, dans la société Orano et ses filiales, ex-Arriva, exploitent pratiquement toutes les ressources du Niger, qu'elles soient aurifères ou en argent ou en uranium. Ce pays qui est le quatrième producteur.
Oui. En uranium, sur les 10 dernières années, le Niger a fourni pratiquement 20% des besoins de la France pour faire fonctionner ses 56 centrales nucléaires, électronucléaires. 20%, c'est pas rien. Ce n'est pas tout, mais c'est quand même un cinquième de ce que les centrales nucléaires françaises consomment.
Oui, d'accord, mais il n'y a pas que... Parce que là, quand on parle de 20%, nous parlons d'une façon simpliste. Hein. Au fait, là, c'est juste la consommation locale, mais cette énergie, elle permet aussi donc d'être exportée ailleurs, en Europe, et elle participe dans l'industrie et aussi dans le domaine militaire. Il ne faut pas oublier. Alors, je crois que là, nous sommes dans un contexte important que le Niger a atteint un seuil de pauvreté sont nulles égales ailleurs. Et que les sanctions de la CEDEAO viennent toucher plus la population que l'élite. Ensuite, ce qui est drôle, j'allais dire, c'est de voir le pays plongé dans le noir, parce que donc, parmi les sanctions, on lui interdit d'avoir de l'électricité.
Oui, on y reviendra.
Alors qu'il est pays producteur de matières premières d'énergie. Le hic est là, c'est le paradoxe justement du Niger.
Absolument, absolument. Bien, alors j'aimerais quand même aborder un aspect qui est un peu pas très touché dans l'explication de ce qui se passe actuellement en Afrique. Alors, il y a ça, c'est la question ethnographique. C'est les interactions ou disons les chocs entre les différentes ethnies qui composent les sociétés africaines. Alors, il y a certains ethnographes, comme le français Bernard Logan, qui reprochent au gouvernement français, depuis Sarkozy jusqu'à Macron, en passant par François Hollande, une succession de graves erreurs politiques ayant conduit à la situation actuelle dans le Sahel, c'est-à-dire une méconnaissance totale de la géographie démographique. Et ils ont fait un découpage n'importe comment, mêlé les choses n'importe comment, essayé de cacher des problèmes qui sont très profonds et qui sont millénaires, juste avec la question du djihadisme islamique qui en réalité est arrivé comme la dernière couche. Alors, et selon lui, selon Bernard Logan, par ignorance et incompétence, les dirigeants français ont transformé un conflit ethnique ayant commencé en 2011 au Mali en un embrasement généralisé de toute la région du Sahel, notamment après la destruction de la Libye, malgré toutes les mises en garde des en particulier des militaires et des services d'enseignement qui ont dit à Sarkozy qu'il ne fallait pas y aller parce que cela allait avoir des conséquences terribles. Alors, qu'en pensez-vous et à votre avis, quel est le poids des conflits ethniques dans l'évolution des relations sociétales et politiques dans les pays du Sahel ?
Vous savez, l'une des armes les plus dévastatrices dans le monde, plus que le nucléaire, plus que la bombe à H, plus que tout, c'est la bombe sociale. Donc, l'implosion sociale fait des ravages beaucoup plus importants et à un moindre prix.
Absolument.
Moi, je n'adhère pas à cette thèse, car le gouvernement français sait parfaitement que la division ou le partage a été un des éléments de la France post-coloniale. Pour mieux gérer les colonies, c'est dans ces divisions et que certaines minorités ont été donc portées au pouvoir au détriment d'autres tribus pour mieux gérer la situation.
C'est un peu comme la division du peuple kurde sur quatre pays dans le cadre des accords de Sykes-Picot. Et en fait, c'était clair que cela a été fait d'une façon à transformer les Kurdes en bombes à retardement dans la région.
Je dirais plus encore, par exemple, rappelez-vous les Tutsis et les autres tribus où nous avons assisté à un génocide et que la France n'a pas été passive, mais elle a été acteur et que jusque-là, oui, n'a pas été condamnée par la justice internationale. Ensuite, nous savons que dans la région du Sahel sahélien, il y a de gros tribus tels que les Swahilés, les Swahilés, tels que les Bambara, les Hausa. D'ailleurs, le président déchu, Mohamed Bazoum, est issu de la tribu des Hausa, mais même Tiali est issu de cette même tribu qui va au-delà de la frontière du Niger, qui est même au Nigeria. Pour dire que le découpage administratif que
Absolument.
Tous les pays africains ont accepté par sagesse, je dirais, pour éviter toute conflictualité ou retour à un embrasement total, car vous savez que les Africains, au fond, ce ne sont pas un peuple, j'allais dire, méchants, non, bien au contraire. Les Africains sont des gens très gentils, très corrects et très sages, et qui sont guidés justement par cette sagesse. Et c'est comme si on voulait dire que l'Afrique n'a existé qu'à partir du colonialisme occidental, alors que bien avant, il y avait des empires, il y avait du savoir, il y avait de la sagesse. Les plus anciennes et les plus grandes universités au monde étaient en Afrique. La plus vieille était en Algérie, la deuxième plus vieille était à Tombouctou. Donc, pour dire que les grands royaumes du Ghana, du Soudan, du Mali, de l'Éthiopie, c'était des deux grandes civilisations. Mais le fait d'avoir eu cette mainmise occidentale sur l'Afrique, on a un peu dénigré cette attitude humaine, et comme si on a reléguer l'homme en Afrique au deuxième ou au troisième rang. Je reviens donc à cette approche sociologique qui était l'un des principaux moteurs de l'action coloniale et de la division et de la mainmise française, surtout dans ces régions-là. Et à chaque fois, elle a dynamité les sociétés, elle a créé des conflits. Et vous savez que maintenant, avec les problèmes économiques, les problèmes de l'environnement, donc les Africains sont amenés à une survie. Cette survie pousse justement les minorités à une guerre intestine pour survivre. Et là, par exemple, nous parlons de ce qui se passe au Niger comme si c'était un fatalisme. Alors que ce qui a été, au lieu de chercher les causes qui ont conduit...
Je suis tout d'accord, tout à fait d'accord avec vous, parce que justement reprendre cet aspect-là ethnographique, bien qu'il a sa valeur dans l'explication, on ne peut pas le nier, il a sa valeur et son poids. Mais justement, la toile de fond, c'est qu'il introduit une sorte de fatalisme mécanique. Vraiment, mais alors mécanique, que comme si c'était des choses inéluctables où on écarte justement la possibilité de la créativité humaine. Prenons le cas des États-Unis, c'est un peuple de migrants venus de toutes les cultures du monde, de toutes les sociétés du monde, mais la Constitution des États-Unis a pu justement mettre en place un pays et une république. Et pourquoi ça ne se répéterait pas en Afrique, quand bien même il y a toutes ces ethnies?
Vous savez, tout repose sur la condition humaine. Quand l'homme est jugé à sa juste valeur et il est poussé vers la progression, je ne pense pas qu'il y ait ce dénigrement. Bien au contraire, je crois qu'il y aurait une solidarité. Seulement, je disais que le social était une arme utilisée par la France. Je le dis parce que je le vis, je le sais. Il a été utilisé même en Algérie, donc pour monter des régions contre d'autres, des appartenances contre d'autres. La création du clivage entre le Chiaoui, le Kabyle, l'Arabe, le Tergui, le Neili et le Mousavite. Mais là, nous sommes dans une configuration pratiquement nationale où tout le monde est uni autour d'une seule idée, c'est le vivre ensemble. Je vous rappelle que même dans la pensée musulmane, le prophète Mohammed, en créant Médine, qui s'appelait Yetzirim, Médine, ça veut dire la cité. Et cette cité était gérée par une constitution de 54 articles et que les 54 articles ne parlaient que du comment vivre ensemble. Et dire qu'il y avait 4500 juifs, 1500 musulmans seulement et plus de 6000 entre chrétiens et d'autres confessions. Et les gens ont vécu en harmonie dans le respect total. Et là, donc, quand on revient en Afrique, au Niger, la condition humaine du Nigérien, en fait, ce n'est pas son appartenance tribale ou ethnique, pas plus que comment subvenir aux besoins de sa famille, comment accéder à l'éducation, comment accéder à la santé, comment accéder à un vivre honorable.
Bien, alors justement, dans ce sens, Monsieur Soufi, j'aimerais bien que vous nous disiez qu'en est-il alors du poids des accords post-coloniaux avec la France, notamment le franc CFA, dans le maintien des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, de l'Afrique centrale, dans le sous-développement et la pauvreté. C'est ce que vous disiez au début, que justement, ce qui se passe actuellement, c'est une contestation de ces accords post-coloniaux.
Vous savez, un seul État, donc en Europe, qui est la France, a pratiquement ruiné une très grande partie de l'Afrique, pas que l'Afrique de l'Ouest. Le CFA et la CDA sont là justement pour maintenir la mainmise de la Banque Centrale Française, qui prend entre 300 et 500 milliards de dollars chaque année à travers les rouages de la Banque centrale. Vous savez, vous êtes pays africain et vous n'accédez annuellement qu'à 15% de votre recette. Si vous demandez au-delà de 15%, vous devriez payer une taxe et que vous ne verrez jamais ce que vous avez comme argent, ni encore moins que savoir ce que vous possédez réellement. Donc, ce sont un ensemble d'accords vraiment débitoires. Mais là, les Africains, la montée justement de la diaspora, la montée de la conscience du panafricanisme, aussi l'accès au savoir, ça et là en Afrique, a éveillé les consciences et a permis de se démarquer, vouloir se libérer de ce colonialisme économique, car depuis 56, depuis 45, pratiquement, Charles de Gaulle a entrepris d'une façon, on va dire, d'un visionnaire pour la France, pour ne pas sombrer dans l'anonymat, pour ne pas être faible, comment garder la mise sur les colonies. Et à chaque fois qu'ils ont donné, il y a eu une indépendance, il y a eu en contrepartie des accords coloniaux. Vous savez que le seul État qui est resté, donc, qui a fait réellement la guerre à la France, c'est bien l'Algérie, parce qu'on voulait coûte que coûte garder l'Algérie. On savait très bien que maintenir l'Algérie à genoux, c'était maintenir la porte ouverte vers l'Afrique et maintenir l'Afrique aussi à genoux. Regardez, depuis 2019, le retour de la politique algérienne à la scène internationale a donné aussi des ailes aux pays africains et a servi de bouclier qui a permis au Mali d'emprunter le pas à l'Algérie dans sa politique anticoloniale, tout simplement. Ça, le pas a été suivi un peu partout et c'est tant mieux. Il est temps que l'Afrique réfléchisse d'une manière différente, qu'elle peut se prendre en charge. Elle a le moyen humain, elle a le moyen matériel, elle a le moyen naturel, et elle peut très bien, donc en conjuguant les efforts. Moi, je suis très content de voir, par exemple, le Burkina Faso et le Mali être solidaires du Niger, le Parlement sénégalais, où eux aussi ont été solidaires pour dire que les populations sont pour, quelque part, ce genre d'action. Même si ça ne se dit pas, c'est un secret polichinelle.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Abdelkader Soufi pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM. À Bamako, je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Abdelkader Soufi, docteur, enseignant, chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Abdelkader Soufi, je vous salue à nouveau. Et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Ma première question, cette partie étant consacrée aux questions géopolitiques, j'aimerais bien vous demander comment expliquez-vous le non-alignement de l'Allemagne et de l'Italie sur la position de la France et de l'Union européenne, si on peut dire, quant à la résolution de la crise en Niger malgré les sanctions imposées par la CEDEAO.
Vous savez, c'est un peu complexe parce que là, nous sommes dans une nouvelle perspective dans les relations internationales où chacun pour soi et que l'Union européenne ne paye pas de mine cette action, car justement, en ce qui concerne son action dans les anciennes colonies, ne partage pas. Et on ne peut pas voir pourquoi les Allemands ou les Britanniques britanniques ou autres, donc pays européens, vont suivre. Je crois que chacun a un intérêt caché quelque part, que ce soit avec le Niger ou avec d'autres pays africains. C'est pourquoi je ne vois pas pourquoi ils vont suivre, car ce n'est pas de leurs intérêts, il n'y a pas de cadeau. Rappelez-vous que durant la Covid-19, l'Italie s'est retrouvée toute seule faisant face donc à la Covid, et même l'Union européenne l'a laissée tomber, l'a lâchée. Ni la France, ni l'Allemagne n'ont été au secours des Italiens. Pour dire que nous sommes dans des relations internationales chaotiques et que chacun pour soi, on est libre.
Bon. Alors, la seconde question, parlons un peu plus concret. Alors, les États-Unis possèdent actuellement 1500 soldats. Ils ont 1500 soldats sur les 6500 que compte le déploiement américain en Afrique, sont stationnés au Niger sur deux bases, dont l'une constitue la plaque tournante régionale pour les missions de drones, de surveillance. Et la France maintient 1100 soldats dans le pays, l'Italie 300 et l'Allemagne environ 100. Bien, alors la situation qui n'est pas à être détachée, ne peut pas être détachée de ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso. Et de ce qui peut se passer, on ne sait jamais. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux ou nous n'avons pas de boule de cristal. Mais les choses sont aussi instables au Tchad. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Alors, dans ce contexte, et lors de sa visite au Niger, Victoria Nuland, donc l'un des poids lourds du département d'État américain qui a repris la gestion du dossier africain, a eu des entretiens avec les représentants du gouvernement nigérien. Et le compte-rendu du département d'État mentionne deux points essentiels. L'assurance pour les USA, dont essentiellement l'assurance pour les USA de garder leur base militaire intacte et sans danger. Et donc, dans ce compte-rendu, on voit qu'il y a une précision importante qui est à aucun moment, comme vous le disiez dans la première partie, il n'est question de réinstaller dans ses fonctions le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, selon la formule désormais consacrée. Alors, comment analysez-vous cette situation? Comment elle pourrait évoluer du moment que l'Allemagne et l'Italie n'ont forcément pas encore envie de garder leurs soldats dans la région? Et pourquoi, à votre avis, cette mollesse de la position américaine à l'égard de ce qui se passe au Niger?
Au fait, c'est un peu plus complexe, mais quand même, je vais vous dire. D'abord, en ce qui concerne le Niger, donc le pouvoir en place, donc il a commencé par gérer les affaires courantes en nommant un gouvernement de transition, et que en contrepartie, il envoie des émissaires, il reçoit des émissaires avec ses différents partenaires, comme je disais, et garantir les intérêts des uns et des autres, qui sont des engagements de l'État du Niger, avec ses homologues partenaires, notamment, comme vous le disiez, les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, quand il y a eu le renversement de la vapeur au Mali, les Américains se sont abstenus de fournir l'aide logistique et l'aide du renseignement aux forces Barkhane en France. C'est-à-dire qu'il y avait un divorce prononcé, plus à dire que les Américains ne comptaient plus sur la sous-traitance française et comptaient donc prendre les choses en main. Et là, ça s'explique quelque part une guerre qui ne dit pas son nom, car la France, même en sous-traitant la superpuissance internationale, pour la superpuissance internationale, n'a pas été dans sa politique, on va dire, dans le politiquement correct avec les Américains, et cela a déclenché une guerre à terme entre les deux États, même si elle ne dit pas son nom. Les Américains, dans leur politique, ils le disent. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis. Il n'y a que des intérêts. Donc, ils marchandent avec tout le monde. Demain, ils ont une possibilité de marchander avec ou de travailler, de faire affaire avec le Niger, le Nouveau Niger. Ils le feront, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont aucun problème. Ça, c'est la politique sur laquelle repose la philosophie américaine. Et par conséquent, si les Français dérangent, et s'ils dérangent à la règle, ben, ils vont les évincer. Et ils ne vont pas les aider. Et ils s'en foutent éperdument. Là, il ne s'agit pas de l'intérêt américain. L'intérêt américain est géré par les Américains. Et donc, c'est pourquoi on voit que personne ne bouge le petit doigt pour la France, parce qu'ils savent pertinemment que la France vit comme une herbe sauvage au détriment de l'Afrique. Et que tout le monde est conscient. Tout le monde le disait peut-être à voix basse, mais aujourd'hui, tout le monde le dit. Regardez le Premier ministre italien. Même avant d'être Premier ministre, elle a dit que ce qui a poussé, par exemple, les migrants à venir en Europe, ce ne sont pas leur envie de découvrir l'Europe, mais c'est le travail, j'allais dire, du stricteur de la France dans ces pays-là.
D'accord. Et donc, justement, par rapport à ça, nous l'avons évoqué au début, le Niger est l'un des pays les plus pauvres dans le monde. Malheureusement, même après 60 ans d'indépendance, donc il y a la CEDEAO qui fait des sanctions qui aggravent la situation en coupant l'alimentation, le médicament et l'électricité.
La CEDEAO a été créée en 75 en tant que organisation économique entre les 15 États et elle s'est donné le droit de se substituer au Conseil de sécurité en 1990 en s'attribuant des prérogatives sécuritaires. Or que depuis 1990 à ce jour, il y a eu, je disais, plus de 26 coups d'État dans la région de la CEDEAO qui ont touché 11 pays de la CEDEAO et que elle n'a pas bougé. Bien au contraire, nous avons vu, même quand il y a eu le problème sécuritaire avec le crime organisé et avec l'avènement du terrorisme.
Le terrorisme.
France a eu recours aux opérations Serval, Barkhane, Licorne, Sabre, G5 Sahel plus 1, et en aucun cas nous n'avons parlé d'une armée composée de la CEDEAO. Subitement, on voit que c'est devenu un outil entre les mains de la France. Donc, c'est un outil économique qui garde la mainmise du CFA et de la Banque centrale, mais aussi il se substitue parce que la France ne peut pas aller au-delà du droit international et intervenir comme ça contre la souveraineté du Niger. Et on a l'impression que le coup d'État s'est passé à Paris et non pas à Niamey.
Oui. Et donc, justement, par rapport à ces sanctions qui ont été décidées par la France, donc qui coupent une aide normalement de 136 millions de dollars, il y a l'Union européenne, je crois, qui avait un programme de 550, si je me rappelle bien, et il y a l'Allemagne qui coupe aussi, mais ce qui attire l'attention, c'est en fait la position américaine par rapport à ça, qui dit qu'elle ne coupe pas l'aide, mais elle dit que la situation actuelle au Niger pourrait avoir une conséquence négative sur l'aide qui est destinée à ce pays qui s'élève à 228 millions de dollars. Alors, comment vous voyez la chose?
Moi, je crois que dans la région, il y a deux États qui ne se font pas dicter leur position. Il y a les Américains qui sont là et ils ne se font pas dicter leur position par rapport aux décisions prises par les uns et les autres. Et il y a l'Algérie aussi qui est souveraine dans ses décisions et qui sait comment s'y prendre dans cette affaire-là. Donc les Américains, d'ailleurs, Blinken a invité le ministre des Affaires étrangères algérien à Washington, justement, entre autres, pour discuter du problème du Niger, pour voir à quel point le poids de l'Algérie dans la région est important et comment que les Américains ont plus, il y a plus de crédit du côté d'Alger que du côté de Paris ou de la CEDEAO. Nous avons vu des images qui étaient diffusées par lors de la réunion de la CEDEAO, qu'il y avait les présidents d'un côté et il y avait plein de blancs européens à dire que la CEDEAO, c'est l'Union européenne et non pas l'Afrique. Il faut comprendre que même cette CEDEAO est gérée par l'Union européenne. Je finis là. Les Américains, je crois qu'ils font dans leur politique du wait and see et ils voient le développement des choses et c'est en fonction de cela qu'ils agissent. Donc, ils n'agiront jamais parce que les Français veulent ou parce que les Français ne veulent pas. On est d'accord.
D'accord, bien. Alors, la question suivante, Monsieur Soufi, je ne sais pas si elle est un peu tirée par les cheveux, mais c'est quand même très intéressant de regarder cet angle-là aussi. C'est qu'il y a eu le sommet de l'OTAN qui s'est tenu au début mois de juillet à Vilnius, en Lituanie, il y a fait quelques semaines. Alors, dans ce sommet de l'OTAN, en plus des questions de budget, de sécurité, de l'alliance, de ce qui se passe en Ukraine et ainsi de suite, il y a eu un axe qui a été introduit, qui est extrêmement important en termes de redéploiement de la politique de l'OTAN dans une région qui sort complètement de sa zone de compétence. Parce que c'est comme son nom l'indique, c'est l'Alliance Nord-Atlantique. Normalement, elle est là pour la sécurité des pays qui composent la région européenne et Nord-Atlantique. Mais là, c'est l'Indo-Pacifique. Alors, d'abord, donc, ils veulent que l'OTAN arrive avec ses forces militaires, notamment navales, et qu'il intègre les pays qui sont déjà des alliés des États-Unis, comme le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, probablement aussi l'Australie, dans cette organisation. Alors, moi, deux questions. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est la fin de la doctrine mise sur place par Obama en 2013, quand il a parlé du basculement de la politique extérieure des États-Unis de l'Atlantique vers le Pacifique. Et là, on est en train d'assister à un basculement du Pacifique à l'Indo-Pacifique, juste parce que, justement, cette région, elle est au cœur du monde, et elle est au cœur de toutes de tous les continents. Et voyons la nouvelle géopolitique mondiale actuellement avec l'émergence des BRICS, on se demande si ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Et puis la deuxième question, justement, la France, qui est une puissance indo-pacifique, avec tous les intérêts qu'elle a sur place, elle a refusé qu'un bureau de l'OTAN soit ouvert au Japon. Et elle refuse justement, elle veut bloquer la politique américaine de déployer les forces de l'OTAN dans cette région. Est-ce que ce n'est pas justement un retour de manivelle que nous voyons actuellement au Sahel par rapport à la politique française et aux déclarations du président français d'avoir une liberté stratégique pour son pays, pour l'Union européenne? Est-ce que ce n'est pas une façon de faire pression pour la faire plier sur la question indo-pacifique?
Vous savez, je peux prendre quatre dates importantes, donc 1990, 92, 2012, 2017, et 2023. Alors, d'abord en 92, quand il y avait le Japon et la Corée du Sud qui ont décidé de s'en passer des bases américaines dans la région, les États-Unis d'Amérique ont revu leur doctrine. Donc après la guerre froide, donc en cherchant de nouveaux ennemis et qui étaient considérés comme étant l'islam politique et la Chine montante. Et là, cette doctrine est allée contre, comme il disait, le communisme qui était en Asie, notamment la Corée du Nord et la Chine, qui restait une menace dans la région de la mer de Chine et surtout contre le Japon et la Corée et les États-Unis. Ensuite, donc Obama est venu avec une nouvelle approche qui a été énoncé par Hillary Clinton en 2012, et c'était le pivot, la stratégie du pivot américain en Asie-Pacifique en réponse au rêve chinois, donc à la stratégie 8D, 8-2 chinoise et le projet de la ceinture et de la route. Plus tard, en 2017, Trump a dit que donc cette guerre dans la région, ne concerne pas que la Chine, mais aussi l'Inde. Donc, elle a été élargie à l'Inde, à l'océan Indien. Donc, et en même temps, ça permet d'avoir une mainmise et un point de contrôle sur la corne africaine et sur le canal de Suez et Bab el-Mandeb.
Absolument.
Ce qui est sûr, c'est que l'émergence de puissances telles que l'Inde et la Chine, et avec le retour de la Russie sur la scène internationale, la montée du Brésil et de l'Afrique du Sud sur un plan géopolitique, vous savez, il y a un contrôle des mers. Et le contrôle des mers, ça a toujours été la politique américaine, ce qu'on appelle le containment du globe terrestre à travers les sept flottes. Et là, nous avons les pays émergents qui sont en train de faire un contre-containment, mais plus à dominer des points importants un peu partout à travers le globe. Le Brésil dans le Pacifique, c'est la pointe entre entre l'Atlantique, la pointe entre l'Indien et l'Indien et l'Atlantique, l'Afrique du Sud, et vous avez aussi la Chine qui est dans le Pacifique, l'Inde dans l'Indien, et vous avez la Russie qui est sur le pôle Nord, sur la Manche, sur le Pacifique, sur la mer Noire. Ça veut dire que quelque part, toutes les mers sont contrôlées par le groupe des BRICS, et cela représente une menace réelle à l'hégémonie américaine qui a essayé de se projeter à travers ce rebalancement ou le travail des équilibres 40-60 au profit de cette région-là. Les Français ont vu que le rebalancement menaçait les intérêts français dans la région de prédilection, de domination.
L'Indo-Pacifique.
L'Indo-Pacifique, où la France a beaucoup d'intérêts et qui se voit voler justement ses intérêts au profit de la politique américaine qui essaie d'avoir des relations avec l'ASEAN, donc la communauté de l'ASEAN, en plus donc du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Chili et autres. Donc, cette mainmise américaine élargie aux intérêts français a été très mal vue à Paris. Et nous, d'ailleurs, nous avons vu Paris s'est opposé à ce projet d'élargissement de l'OTAN. Car, rappelez-vous, les dernières déclarations de l'OTAN sont graves parce que aujourd'hui, on parle de territoire de l'OTAN. Voilà. Quand on parle de territoire, c'est comme si on parle de population, de territoire et de souveraineté, comme si l'OTAN était une nation. La visite du président français Macron en Chine, au retour avec de nouvelles déclarations qui s'opposaient carrément à cette politique américaine et de l'OTAN, et même où il décriait la politique américaine concernant l'Ukraine et il s'est même invité au BRICS, à la réunion du BRICS. D'ailleurs, on n'a pas voulu qu'il soit présent, mais pour dire qu'il y a cette géométrie variable menaçante de Paris vis-à-vis de Washington. Et là, en définitive, nous assistons à une guerre dans la guerre qui ne dit pas son nom.
Mais est-ce que justement cette confrontation dans l'Indo-Pacifique n'est pas un peu la trame de fond ou qui donne le reflet de ce qui se passe au-delà, bien sûr, toute mesure gardée, au-delà des conditions locales qui ont généré le coup le renversement du président Bazoum au Niger, mais aussi dans tout le Sahel. C'est-à-dire, il y a quand même une confrontation entre les intérêts américains et français. Est-ce que ce n'est pas un peu, disons, la trame de tout ça, sans vouloir sombrer dans le conspirationnisme, comme on dit, mais essayons d'analyser froidement.
Moi, je ne dis pas ça. Vous savez, dans les relations internationales, tout est possible. Donc, on prend tous les scénarios possibles et imaginaires. Donc, est-ce que les Américains n'ont pas été derrière aussi ce renversement au Niger au détriment des Français? Bah, soyons sérieux. Je crois qu'il y a une guerre aussi d'intérêt. Nous avons dit que, ne serait-ce que de mon point de vue, je pense que les Américains ne veulent plus de la France dans la région, ne serait-ce que de cette manière, avec cette mainmise sur l'Afrique, sachant que l'Afrique, montante, c'est une population de 1,5 milliard d'habitants. Ça veut dire que c'est la troisième. Elle fait partie des trois grandes puissances.
Non, mais c'est que moi, ce que je voulais dire, c'est en fait juste pour montrer ces enjeux et aider à ce que les gens puissent se positionner d'une manière judicieuse et en ayant la capacité de danser sur plusieurs cordes à la fois.
Je disais tout à l'heure, les Américains n'ont que des intérêts. Donc, je vais le dire peut-être autrement. Les Américains, éventuellement, ne voient pas d'un mauvais œil le renversement.
C'est ce que je voulais dire.
Ils ne peuvent pas le voir de mauvais œil et ils ne peuvent le voir que d'un angle pragmatique. Donc, cet angle pragmatique, c'est quels sont les intérêts des Américains maintenant avec la nouvelle donne au Niger. C'est important. Quelle est la nouvelle donne ou quel est l'intérêt américain dans la région de l'Afrique de l'Ouest, avec le Mali, avec le Burkina Faso, qui peuvent très bien entretenir de relations d'intérêt au détriment de la politique française dans la région. Oui, je dis oui, car sur un plan sécuritaire, les Américains ont toujours composé avec l'Algérie, et je crois que la base des drones qui a été installé à des fins non déclarées donc est devenu vaine, presque sans intérêt par rapport aux intérêts ou à la vision initiale, mais elle peut servir à autre chose pour les Américains. Cependant, ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de vivre le dessin de la nouvelle carte du monde. Ça, c'est sûr. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une période transitoire dans les relations internationales et qu'aujourd'hui, on va plus vers les blocs. Vous avez vu le BRICS, comment il a émergé maintenant qu'il a dépassé le G7. Et nous avons vu, à partir de la crise du Niger, un nouveau bloc qui s'est constitué, qui était le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est un petit bloc, mais c'est un bloc aussi. Il est sécuritaire, mais il peut devenir économique, il peut devenir prendre le relais de la CEDEAO.
Il y a même l'idée de créer une confédération entre les trois pays qui a été lancée, et c'est tout à fait bien, pourquoi pas?
L'Union européenne, avant qu'elle ne soit Union européenne, c'était l'Union du Benelux, donc c'était trois petits États. Petits États, hein, quand on les compare au reste des géants de l'Europe, et ce sont ceux-là qui ont créé plus tard l'Union européenne avec l'adhésion de l'Allemagne et de la France. Donc, le Niger, le Mali et le Burkina Faso peuvent créer quelque chose qui se substitue à la CEDEAO, surtout que les intérêts de l'Afrique sont là. Nous avons le projet du Nigal, vous avez le projet de la SLECAF, vous avez plein de projets ambitieux de l'Afrique, vous avez la dorsale algérienne ou la dorsale africaine, donc cette pénétrante qui va toucher tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et elle va au-delà de cela, qui permet une jonction des moyens de transport entre le sud de l'Afrique et le nord de l'Afrique, et créer justement une dynamique tout à fait nouvelle qui donnerait à l'Afrique une nouvelle position centrale au monde, avec toutes les richesses qu'elle possède, et avec justement ces nouveaux partenariats avec de puissances émergentes telles que l'Inde, telles que la Chine, la Malaisie, la Russie, le Japon, l'Allemagne, donc autant avec des pays aussi africains tels que l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Éthiopie, autant d'acteurs qui peuvent donner une nouvelle dynamique en Afrique, loin de cette politique qui n'a fait que trop durer en Afrique.
Bien, alors une dernière question, Monsieur Soufi. Est-ce qu'il est possible de résoudre cette crise-là avec l'aide des pays frontaliers du Niger ou du Mali et tout, où il y a eu une situation similaire, sans qu'il y ait d'intervention étrangère qui pourrait déstabiliser encore plus la région? Et comment vous voyez peut-être une ébauche d'une solution?
La solution, il y a toujours une solution. Et le seul peut-être scénario en catastrophe, c'est de voir les Français déclencher les actions terroristes, comme ça a été dit récemment, où les bases françaises ont libéré certains terroristes qui ont participé dans l'action qui a emmené l'assassinat de 5 soldats nigériens et abattre 10 terroristes. Ce qui est sûr que c'est une arme qui est utilisée. Le scénario, c'est de voir l'inconscience de la CEDEAO intervenir dans la région et embraser tout. Mais la solution, elle est là, elle est politique. Quand il y a un acteur principal qui peut jouer ce rôle, c'est l'Algérie, parce que cela concerne l'Algérie plus que tout autre pays, pour sa stabilité et pour le développement. Il y aura aussi d'autres acteurs importants, exogènes, qui ont intérêt à ce que cela soit et reste clean, que la sécurité se maintienne. Et notamment, nous parlions tout à l'heure des Américains, mais il y a aussi d'autres acteurs qui ont intérêt à jouer, à aider à ce qu'il y ait des solutions pacifiques. Je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à la Grande-Bretagne, qui sont membres du Conseil de sécurité et qui peuvent jouer un rôle pour justement aider à aller vers une solution pacifique qui arrangerait tout le monde et qui éviterait un bain de sang, qui ne finira jamais.
Mais sans oublier les questions de développement, bien sûr, parce que sans développement, il ne peut pas y avoir de paix.
Mais justement, j'ai dit que les solutions, elles sont là d'abord, trouver une solution pacifique. Nous avons toujours dit que le problème de l'Afrique, ça a été le développement, le problème du Niger. Orano prend l'équivalent de 22 milliards de dollars chaque année à elle seule du Niger, alors que tout le budget du Niger ne dépasse pas les 2 milliards. Et que ces aides qui viennent là, c'est des petits sous comparativement à ce que prend Orano. Si le Niger pouvait prendre les 22 milliards, ne serait-ce que la moitié des 22 milliards, 11 milliards seulement, on aurait vu un autre Niger. Le Niger a besoin de développement. Il y a le delta du Niger. Je pense que le projet du Niger est ambitieux car il permet donc la création de routes, la dorsale africaine, le transfert du gaz du Nigeria via le Niger, où nous pourrons voir des stations intermédiaires de ravitaillement, aussi des stations nucléaires plutôt électriques, qui permettent de transférer les eaux du delta du Niger dans des régions arides, qui permettent la stabilité des populations, le développement, et cela permettrait peut-être un meilleur essor pour les Nigériens.
D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Soufi. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à éclairer les différentes facettes de cette crise et ses conséquences probables et aussi ses évolutions probables. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.